Voilà, donc dans 5-10 minutes, discussion sur la mobilité des artistes, ici même, sous la bâche. Donc venez, n'hésitez pas à venir vous asseoir, participer à la discussion, essayer d'apprendre des choses, c'est l'occasion.
Je vais vous présenter les invités de ce débat. Je vais commencer par les dames. Alors, on attend aussi d'autres invités qui vont nous rejoindre, qui sont un peu bloqués pour le moment suite à un petit souci de véhicule. Ils vont nous rejoindre en cours de débat. C'est Dread Maxime qui est ce chanteur sénégalais qui fait du reggae, qui est assez connu au Sénégal et qui fera d'ailleurs à la fin de ce débat un petit set acoustique gentiment offert au Festival Esperanza. Voilà, à ma droite, Karine Leclerc, qui est cofondatrice du Festival africain de Bruxelles. Ici, vous avez Issaka Sawadogo, qui est acteur burkinabé, mais aussi qui a la double nationalité, puisqu'il a la nationalité norvégienne. Vous avez pu le voir dans un film de Marion Ancel qui s'appelle « Quand le vent soulève le sable ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu ? Ah ben voilà, c'est le papa du film. Donc il nous fait la gentillesse de venir sur ce festival. Il le découvre et je suis très heureux de l'accueillir. Il a dirigé, mais il a surtout été l'initiateur du Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, Le Cito. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un endroit assez incroyable à Ouaga, qui fédère des artistes et qui organise des formations et aussi des spectacles et qui a la particularité de professionnaliser le mieux possible les artistes. Ensuite, Alfred Weba, qui nous vient du Burkina Faso. C'est la troisième année qu'il vient au festival et d'ailleurs le Festival Esperanza est partenaire du FESDIG, qui est ce festival qui se situe pas très loin de Fada à Tantiaka, qui est un festival qui a la volonté de faire participer tous les villages avoisinants et qui est vraiment un festival de découverte à la fois d'artistes mais qui implique aussi les habitants des villages qui construisent ce festival avec Alfred, avec des partenaires comme les Îles de Paix. Voilà, un festival qui est déjà à sa 8e édition, donc c'est une grande histoire et c'est un honneur aussi pour le Festival Esperanza de participer à ce festival, une belle découverte il y a de cela 3 ans, où l'équipe d'Esperanza s'est rendue, Jean-Yves Lafineur et Stanny Bouillot, pour visiter ce festival. Et c'était vraiment une rencontre incroyable. Et d'ailleurs, de nombreux projets ont eu lieu, notamment le groupe On prend l'air qui s'est produit dans la cour là en bas. Eh bien, ont été dans ce festival à la suite d'une performance dans le souk l'année passée. Et depuis lors, ben, ça crée de l'émulation. Ensuite, Michel Deboc, qui est Monsieur Contre-Jour, qui est je ne sais pas s'il aime ce mot, mais un label indépendant et qui s'occupe de la diffusion des artistes africains. Et voilà, qui est fort axé là-dessus et qui a beaucoup de choses à dire justement sur la circulation. Parce que le thème d'aujourd'hui, ce sera vraiment la circulation des artistes. Alors moi, je me présente, c'est René Georges, je suis administrateur du Festival Esperanza et j'essaie aussi, en dehors de tout ça, de faire circuler des artistes. En 2005, un groupe venant du Burkina Faso qui s'appelle Ryan Nyowinde, pardon, on va éteindre cette machine infernale, est venu se produire sur la scène Jardin. Donc je les avais repérés au Burkina Faso et Jean-Yves Lafineur, le directeur artistique, a eu l'audace de les faire venir. Et ils sont venus et depuis lors, il y a des projets entre le Festival Esperanza et Ryan Nyowinde, notamment des moulins à grains qui ont été placés en vue de préserver des instruments traditionnels. Et aussi des perspectives plus larges de donner des conditions meilleures aux musiciens du groupe Ryan Nyowinde grâce notamment aux bénéfices de ces moulins et puis d'autres choses. Donc on cherche aussi à Esperanza à mettre en, en connexion tous ces gens entre eux pour qu'ils suscitent de l'émulation. Voilà. J'ai présenté tout le monde. Alors, Olivier Bonny, qui vient de me téléphoner maintenant, eh bien, il arrive, qui va nous rejoindre et qui est, lui, l'organisateur du bar des clandestins au Théâtre de Poche. Et Dren Maxime, donc, qui, lui, a eu notamment des difficultés pour venir en Belgique pour faire quelques concerts, des difficultés de visa. Donc, il a beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Alors, comment ça va se passer, ce débat? C'est très simple. Moi, j'ai une question à poser. Et, d'abord à Issachar. Issachar, toi,
oui.
Est-ce que c'est facile de venir en Europe quand on vient de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique tout court?
Ben, je dirais non. Tout simplement, sans trop de commentaires, non. Tout récemment, d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire comme ça qui s'est passée entre la police d'immigration en Norvège et moi. Et vous savez que j'ai lu dans les statistiques que en Scandinavie, les Norvégiens sont les personnes qui voyagent beaucoup parce qu'ils ont des climats assez durs, 6 mois d'hiver et de nuit et tout ça. Donc, pendant l'hiver, les Norvégiens, ils voyagent beaucoup. Alors, je leur ai dit, comme ça, tout bêtement, imaginez-vous qu'avec tout l'argent que vous avez, on vous refuse les visas partout où vous allez aller. Comme ça. Ce n'est pas une question d'argent. Les gens, c'est pas l'argent. On vous refuse le visa. Vous, les Norvégiens, vous restez chez vous. On ne veut pas vous voir chez nous. Non, mais je peux acheter mon visa. Non, on ne veut pas de ton argent. Vous imaginez ce que ça peut faire? Eh bien, dites-vous que les autres qui arrivent ici aussi, éventuellement, ce n'est pas tous qui veulent rester ici en Norvège. Dans l'esprit de tous les Européens, à l'heure actuelle, tout Africain qui vient, qui prend qui va à l'ambassade pour demander un visa, pour venir voir un ami, pour aller en vacances ou pour venir à un festival, ou avec les invitations, on te regarde droit dans les yeux, on te dit non, vous ne pouvez pas avoir le visa. Sans explication. Là, ça m'énerve. Et comme je n'ai pas ma langue dans ma poche, eh bien, je lâche parfois des mots et je deviens ennemi simplement comme ça, des diplomates, des gens qui travaillent dans les ambassades. Ce n'est pas facile. Alors, moi, quand on m'a proposé, la Norvège, après 7 années, m'a proposé comme ça, dit, monsieur, mais pourquoi vous ne prenez pas la nationalité comme ça, vous avez un visa et un passeport et ça vous facilite la tâche, quoi. Je dis, non, mais je vais perdre quand même mon intégrité. Ils disent, mais oui, l'intégrité, on est avec son intégrité. Hein. Et ça, c'était des gens en Norvège qui me donnaient ces conseils-là. Donc, du coup, je sens que, en fait, on partage les mêmes soucis au sein de la population, au sein des gens qui aiment l'Afrique et nous aussi qui aimons l'Europe. On a les mêmes soucis. Donc, j'ai pris le passeport norvégien. Et c'est encore plus intéressant quand je suis allé au Burkina pour renier mon identité parce qu'il fallait ça. Eh bien, la juge m'a dit, écoutez monsieur, voilà une lettre. Je vous signe la lettre, mais sachez que une fois burkinabé, on le reste pour toujours. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Je peux avoir la nationalité norvégienne, allemande, belge, américaine ou quoi, mais je demeure toujours burkinabé. Et ça, je trouve que c'est très fort. Au-delà de tous les papiers, c'est très fort. Ouais.
J'ai une question, peut-être je vais me pencher vers Karine et ensuite je donnerai la parole à Michel. Par rapport à... Comment dire, quand vous organisez un événement tel que le festival, et pour Michel, de faire circuler des artistes, est-ce que vous êtes souvent, empêché tout ce qui est papier, tout ce qui est organisation, est-ce que vous êtes empêché vis-à-vis des ambassades? Est-ce que vous avez des difficultés à faire venir les artistes?
Oui, c'est arrivé très souvent, aussi bien pour des réalisateurs que pour des comédiens ou que des producteurs. Il y a effectivement une grande difficulté à obtenir des visas. certains pays en plus ont l'habitude de donner des rendez-vous pour distribuer les visas après la date où se déroule le festival. Ça nous est arrivé une fois, par exemple, on avait mis sur pied un forum de coproduction où on avait invité toute une série de jeunes producteurs pour les faire se rencontrer et essayer de mettre en place des projets, des productions, des coproductions en partenariat. Eh bien, à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassade belge du Cameroun, on a téléphoné nous-mêmes en disant, voilà, ces deux jeunes producteurs sont invités par nous, etc., etc. On a montré toutes les pattes blanches possibles et imaginables, que nous prenions tout en charge. Eh bien, il était impossible d'avoir un rendez-vous avant, 3 semaines après la date de clôture du festival. Ça, c'est une première chose. D'autres moments aussi, ça nous est arrivé avec le Sénégal pour faire venir une comédienne sénégalaise qui n'était jamais sortie du pays. Donc, il a fallu lui faire un passeport. On a dû payer tout ça, évidemment, sinon elle ne pouvait pas le faire elle-même. On lui a fait un passeport, etc. Et là, on a eu la mauvaise surprise et ça s'est resté dans notre dossier au Sénégal que cette jeune comédienne est restée en Europe. C'est-à-dire qu'à la fin de notre festival à Bruxelles, elle a eu envie de rester en Europe et donc je suis allée la chercher à l'hôtel et là il y avait un petit mot. Elle m'avait rendu le téléphone que je lui avais prêté, il y avait un petit mot. Je suis désolée, je ne pouvais pas te le dire, mais je veux rester. Et elle a disparu dans la nature. Et le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui encore, chaque fois qu'on demande un visa pour le festival au Sénégal, puisque ça s'est passé avec le Sénégal, ben, on a ce problème-là. Et c'est vrai que toujours, toujours, à chaque édition du festival, et je pense que c'est valable pour tous les organisateurs d'événements, il y a des artistes qui ne peuvent pas être là parce qu'ils n'ont pas la patte blanche qu'il faut. Et c'est vrai que, comme Issa le disait, on a parfois tendance à essayer de vérifier si certains d'entre eux, parce que souvent les artistes le font de plus en plus, ils ont des passeports occidentaux qui leur permettent de voyager et qui nous permettent à nous de ne pas devoir déposer d'argent, ceci, cela, etc., parce que ça devient de plus en plus lourd.
Je vais rebondir là-dessus donner la parole à Michel. Et là, pour ouvrir un peu le débat, on sait qu'il y a des problèmes. Le coût des visas, d'ailleurs, au Burkina Faso, un exemple, ou ailleurs, il y a des techniques qui sont mises en place pour dissuader les gens d'aller chercher un visa, notamment les coûts des visas. Et ensuite aussi, par exemple en RDC, c'est les fameux appels téléphoniques, une espèce de loterie qui existe. Moi, j'ai envie de, pour rejoindre un peu l'autre axe de ce festival, qui est la diversité musicale. Est-ce que le fait que certains artistes circulent plus facilement que d'autres, comment peut-on encore faire des découvertes artistiques en sachant qu'il y a cette difficulté à obtenir des visas? Est-ce que vous êtes souvent dans le cas, vous, qui découvrez des artistes, qui les faites circuler, qui les faites venir? Est-ce que parfois ça vous traverse l'esprit de vous dire, mais est-ce que vraiment je fais des découvertes ou je rebondis sur des artistes qui peuvent facilement circuler? Qu'en est-il de la diversité musicale? Voilà, c'est des questions que moi, qui me creusent vraiment la tête depuis un certain temps.
Oui, je veux d'abord commencer pour un peu continuer le débat précédent. Effectivement, la plus grande partie de notre travail, c'est la visa. C'est les visas nous prennent... parce que chaque cas est particulier. On pourrait passer une après-midi à donner des anecdotes du style que les deux intervenants ici ont fait. On pourrait en donner des exemples. Et ce qui est dramatique, c'est que à chaque fois, c'est un autre débat. Parce que les personnes en place dans ces ambassades, dans ces consulats en Afrique, changent. Les habitudes changent à chaque fois. Et donc, c'est très difficile d'avoir un moyen de travailler. Parce que chaque fois, c'est différent. Les contacts sont différents. Et... enfin, des vexations, comme nous avons tellement d'exemples de vexations que les artistes basés en Afrique ont eu à des consulats. Je vais quand même donner une anecdote qui m'a été racontée récemment. Un grand plasticien béninois, connu sur la place de New York, très riche, qui a un espace culturel au Bénin, il demande un visa Schengen à l'ambassade de France. Le samedi qui précédait, il avait chez lui l'ambassadeur et le consul. Ce sont des amis à lui. Et la personne en face de lui, au consulat, donc la préposée à recevoir les demandes de visa, lui demande de prouver qu'il est artiste. Le gars lui dit, mais comment voulez-vous que je vous prouve ça? Demandez à votre ambassadeur ou votre consul. Non, 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 c'est pas eux que vous devez le prouver, c'est à moi. Bon, c'est un exemple parmi vraiment beaucoup de toutes les vexations qui peuvent arriver aux artistes. Donc, je vais arrêter là et je vais plutôt te répondre maintenant. Effectivement, c'est un véritable problème. Pour moi, le problème, il est justement là. C'est comment les artistes basés en Afrique vont continuer à pouvoir tourner dans le futur. et je ne crois pas qu'il s'agisse uniquement de nouvelles, de découvertes. Même des artistes qui ont régulièrement des visas ont des difficultés actuelles. Je représente un artiste malien qui tourne depuis pratiquement 30 ans. C'est le neveu d'Ali Farka Touré, qui est malheureusement décédé. Il a eu des visas depuis 30 ans. Il a toujours respecté son contrat, parce que moi, je respecte le fait qu'un visa, c'est un contrat. Il a toujours respecté son contrat. Et bien, cette fois-ci, il a encore eu des difficultés à l'avoir. Il a eu, généralement, dans la majorité des cas qui nous occupent, c'est très rare qu'on a des refus définitifs. Mais il y a beaucoup de vexations, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de démarches. Alors, moi, personnellement, je refuse de vouloir travailler avec la catégorie d'artistes que madame a parlé, des artistes qui se sont basés ici, excuse-moi. Mais je veux continuer à me battre pour les artistes africains qui ont décidé de s'expatrier, enfin, d'expatrier leur art et de rentrer chez eux pour développer des choses. C'est la dernière chose que j'ai envie de faire. Et donc, voilà. Donc, je crois qu'effectivement, la véritable question au jour d'aujourd'hui, c'est de savoir si l'artiste africain basé en Afrique va encore pouvoir beaucoup tourner. Parce que heureusement qu'il y a encore des festivals comme ici qui donnent une exposition, mais beaucoup de festivals maintenant préfèrent engager par sécurité des artistes basés en Europe. Donc effectivement, on peut se poser la question.
Donc ça pose un réel problème de diffusion quand même, de découverte. Voilà, Issaka, tu veux rebondir sur ce que Michel vient de dire ?
Oui, simplement pour dire qu'il y a quand même un problème pour les artistes qui arrivent et qui veulent s'installer en Europe et qui ils sont sans papier. Le problème, moi je suis artiste africain, je ne suis pas arrivé en Europe que par un autre moyen, mais par ma profession. C'est d'abord des gens qui se sont déplacés, des Européens qui se sont déplacés, qui sont venus en Afrique, qui ont vu le travail qu'on a fait, qui m'ont invité, et ça a été comme ça, d'aller-retour. Par contre, il y a aussi les coups de cœur qu'il faut pas oublier. Il y a des artistes qui arrivent en Afrique et c'est quand même pas le pays qui les intéresse, mais c'est les gens du pays. Donc il y a des amours comme ça qui naissent. J'en connais, je suis témoin de mariage de plusieurs artistes, que ce soit européens et africains. Et quand l'Africain, lui, il arrive ici, malgré qu'il est artiste, il a toujours cette envie. Parce que ceux qui partent, les artistes qui partent, et ça je peux vous l'assurer, tous les artistes africains qui quittent l'Afrique, ils ont en toute première position allé chercher les connaissances, les moyens pour revenir développer des choses en Afrique. Ils ne partent pas pour rester. Et ça pose aussi un problème même au niveau des artistes qui viennent ici et qui rencontrent une âme sœur et qui se marient, commencent à avoir des enfants. Ils ont une vie. Du coup, ils ne peuvent plus abandonner tout ça pour rentrer. Ils sont obligés de rester dans le pays. Alors, et quand on commence à avoir des enfants, quand on commence à avoir une famille, eh bien, tous les projets qu'on avait de retourner et tout ça, ça devient un problème. Parce que là, il faut prioriser les choses. Moi, je ne vais pas laisser mes enfants mourir de faim pour aller construire un centre culturel ou aller, je ne sais pas moi. Mais là, ils essayent de jongler. Et c'est la même chose, c'est vice-versa. Je pense que le problème qui est là, c'est simplement de favoriser, de laisser aller le mouvement social à l'heure actuelle dans le monde entier, que l'on veuille ou pas, les hommes vont bouger. Parce que regardez, à l'heure actuelle, à la télé, moi, je suis obligé d'éteindre la télé, on arrête de parler de Pakistan. Vous voyez tout ce que les inondations font au Pakistan. Hein? Vous voyez ce que ça fait la pollution en Amérique. Il y a des gens qui vont bouger parce que tout simplement, ils sont obligés de partir. Mais moi, j'ai dit, ça, on ne peut pas arrêter ce mouvement. Autant l'accompagner. Et le problème entre l'Afrique et l'Europe, c'est encore plus grave parce que j'ai l'impression à un moment donné que c'est tout un continent qui se ferme, Mais ils ne ferment pas totalement parce que les Européens peuvent voyager facilement en Afrique, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller, vous pouvez amener vos familles, vous pouvez, tout, vous pouvez partir. Mais de l'autre côté, le côté inverse, c'est la misère. Pourquoi? Oui,
En fait, ça prend des mois, il faut savoir que ça prend des mois pour faire venir un artiste. Et là, moi, c'est très simple, quand je pars au Burkina Faso pour faire un spectacle ou tourner avec des acteurs, je dépose mon visa à 10h du matin, je le récupère à 16h30. C'est aussi simple que ça. Ça coûte 70€ maintenant. Et c'est très vite réglé, c'est très informel, c'est très gentil. Il n'y a pas de protocole, tandis que de l'autre côté, c'est un véritable protocole. Alors là, je vais donner la parole à Alfred, parce que pour avoir vu ton festival à Tintiaka, au Burkina Faso, j'ai vu notamment beaucoup de groupes traditionnels très très forts, très puissants, qui, je crois, enfin, j'en suis convaincu même, nous permettrait à nous, occidentaux, de faire des découvertes musicales, à la fois d'un patrimoine, mais aussi d'une émotion. Enfin, voilà, ils auraient très, très bien leur place ici. Est-ce que tu as senti, chez ces groupes, l'envie éventuelle de participer un jour à un festival comme le Festival Esperanza, en sachant que ce sont des groupes qui se produisent généralement dans leur village, qui sont dépositaires d'un savoir. Donc c'est pas du tout des groupes qui rentrent dans des circuits habituels de diffusion, mais plutôt des groupes qui transpirent une tradition. Est-ce qu'il y a l'envie? Est-ce que tu penses que c'est faisable, toi, Alfred? Est-ce que tu pourrais envisager de là où tu habites, de mettre en place toute la structure administrative pour le faire, ou tu dois faire appel alors à des aidants occidentaux ou qu'importe, ou des appuis politiques, voilà.
Ben, merci René. Alors donc, il faut dire, comme on parle de la mobilité des artistes, c'est vrai qu'il y a plusieurs dimensions. Là, c'est directement la dimension de l'artiste africain qui vient en Europe, mais c'est vrai qu'il y a une autre dimension. Comment dirais-je, par exemple, au niveau national au Burkina Faso, bon, nous, notre festival, il se trouve dans un tout petit village, vraiment à 27 km de la plus grande ville à côté, où c'est même d'accès, c'est pas très facile. Bon, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas autour de tous ces villages-là des artistes très bien, vraiment, qui ont une richesse culturelle posée, quoi. Mais c'est vrai que pour ces artistes, déjà, de se faire connaître autour d'eux, et d'avoir déjà la possibilité même de, comment dirais-je, d'avoir des relations vers la capitale, vers les grandes villes. Avant de parler, de quitter le Burkina pour aller se produire ailleurs, c'est tout un autre problème. Donc ça, c'est toute une autre dimension. Et j'allais dire que pour un artiste burkinabé, africain ou voilà, de quel pays, sortir de son pays, aller jouer ailleurs, c'est toute une carrière vraiment qui, quand tu vas jouer ailleurs et tu reviens, ça change, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est ça, il y a une crédibilité, il y a vraiment, il y a quelque chose qui change dans ta vie d'artiste. Ça te permet vraiment de commencer une nouvelle vie d'artiste qui te permettra de vivre de ton art, quoi, pour le futur. Et ça, c'est très difficile. Et nous, effectivement, à travers notre festival, on remarque que vraiment tous ces petits artistes autour, voilà, dans les petits villages, pour se faire voir même depuis la prochaine ville de 27 km, c'est tout un autre problème. Donc j'allais apporter ça pour dire que vraiment, il y a plusieurs dimensions. Je donne un exemple d'un artiste de Fada, de la ville d'où je viens, et Aruna Tchombiano, qui est allé se produire en France il y a, c'était en novembre passé, qui a eu tout un problème d'avoir un visa pour aller en France pour produire. Et ce n'était pas sa première fois, hein. c'était sa deuxième ou troisième fois. Il était invité par une ville, par une commune d'Épernay, parce que nos deux villes ont un jumelage entre la commune d'Épernay en France et puis voilà, la commune de Fada. Donc c'est pour dire jusqu'à quel point c'est très difficile la mobilité des artistes africains. Déjà à l'intérieur du pays, n'en parlons pas à l'extérieur du pays. Donc voilà, ça a été, il a pu avoir son visa le jour même où il allait se produire. Il est arrivé, il a déposé son sac pour aller jouer. Donc c'est pour dire jusqu'à quel point c'est difficile. On reviendra après, mais oui.
Est-ce que, comment dire, est-ce que ça peut décourager les artistes? C'est-à-dire qu'à un moment donné, se sentent-ils enclavés dans leur pays et savoir qu'ils ne peuvent pas circuler vers l'Europe, est-ce que ça peut les décourager et leur faire arrêter leur métier et de ne plus être artistes? Ou est-ce qu'ils ont toujours la volonté de continuer, coûte que coûte? Est-ce que cette difficulté à sortir des frontières appauvrit la création artistique? On sait qu'avec Nicolas Sarkozy, par exemple, qui a une politique ou Berlusconi assez draconienne par rapport au visa, je me suis retrouvé plusieurs fois dans le cas d'inviter des artistes qui allaient partir en France et qui sont passés d'abord par la Belgique. Et d'ailleurs, j'ai dû envoyer une lettre d'invitation et les faire un peu travailler ici, en Belgique, avant qu'ils ne partent faire vraiment le travail en France, parce que c'est pratiquement impossible de maintenant se rendre en France quand on n'est pas ultra connu comme un Youssou N'Dour, on va dire, non ? C'est assez difficile. Michel ?
Non, je ne crois pas qu'il faut spécialement s'appeler Youssou N'Dour pour avoir un visa pour la France. Je crois que ça dépend vraiment du pays duquel on vient. Comme je disais là tantôt, ça dépend vraiment des relations qu'on peut avoir, des garanties et tout ça. Moi, je crois que très souvent, ça s'arrange. Si l'artiste est ne fût-ce qu'un sérieux, même si c'est la première fois, si le partenaire qui le fait venir a aussi une certaine notoriété, une certaine expérience, ça s'arrange. Mais c'est toujours beaucoup de travail, c'est beaucoup, beaucoup de vexation, comme je parlais là tantôt. Je reviens toujours à ça, parce que moi, je ne peux pas appeler ça autrement qu'un musicien qui voyage beaucoup, qui a déjà eu une douzaine de visas Schengen, qui a son passeport rempli, un Togolais que vous verrez demain sur scène ici, qui veut aller en Angleterre, à qui on demande d'aller quatre fois à l'ambassade d'Angleterre à Accra, parce qu'il n'y en a pas à Lomé. Quatre fois il y va, on lui dit il faut revenir, et puis pour finir, pour lui dire ah non, on ne vous le donne pas. Donc je ne crois pas qu'il y a deux modèles. Il y a rien que des cas particuliers, chaque ambassade dans chaque pays, pour chaque ambassade européenne dans chaque pays africain a des règlements qui ne sont pas spécialement uniformisés.
Adaptés en fait.
Voilà. Uniformisé, adapté bien sûr, et uniformisé. Si on parviendrait déjà à voir, si l'Europe pourrait déjà faire qu'il y ait des règles, par exemple, il y a une ligne de 10 points, et que si les 10 points sont remplis, hein, l'assurance, le billet d'avion, enfin, 10 points sont remplis, et qu'à ce moment-là, il n'y a pas de considération subjective sur donner le visa, ce serait déjà un grand point.
Est-ce que la création artistique s'en ressent ?
C'est une évidence, c'est certain. L'artiste africain a deux choix. Hein, s'il veut changer les choses, c'est soit arrêter son art, et il y en a qui malheureusement le font, soit bien sûr, comme l'exemple de la comédienne, c'est de rester ici.
Oui, Karine, attends, on va te passer le micro. Essayez de parler tout près du micro pour qu'on vous entende bien.
Il y a une autre dimension dans la mobilité, c'est que la plupart des artistes dans n'importe quel pays du monde, dans les pays du Sud, dans les pays du Nord, les artistes ne peuvent pas travailler s'ils ne sont pas aidés financièrement. Et le problème en Afrique, c'est que la plupart des artistes trouvent leur financement en Europe. Et que pour trouver ces financements-là aussi, il faut qu'ils soient ici, qu'ils soient présents. Donc parfois, la plupart des artistes, en tout cas en matière de cinéma, certainement, pour que les artistes trouvent les moyens d'exercer leur art, il faut qu'ils soient ici pour être plus près des bailleurs de fonds et plus près des méthodes pour obtenir cet argent. Et donc c'est encore à ce moment-là plus difficile, parce que quand, en tant que festival, on invite un artiste pour qu'il vienne se produire. Nous, on est là avec notre notoriété ici en Belgique, en France ou n'importe où ailleurs. Et donc on finit toujours par arriver à inviter cet artiste puisqu'on prend tout en charge. Mais la plupart des artistes, avant de se produire, doivent développer leur art. Et pour développer leur art, ils ont besoin de moyens qu'ils ne trouvent pas nécessairement en Afrique. Et donc, il faut qu'ils trouvent eux-mêmes les moyens d'être présents, par exemple à Bruxelles, parce que l'Union européenne est un des plus grands bailleurs de fonds de l'art en Afrique. S'ils ne sont pas là pour être présents, pour discuter, pour connaître toutes les modalités de financement, eh bien, ils sont exclus. Et c'est pour ça que jusqu'il y a à peu près une vingtaine d'années, en tout cas en matière de cinéma, il y avait 200 cinéastes un peu partout en Afrique qui étaient connus, comme vous le disiez tout à l'heure, des ambassadeurs, des ministres, etc., et qui obtenaient les moyens d'exercer leur art. De plus en plus maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui, avec rien du tout, font des choses extraordinaires et qui arrivent à se faire connaître par la toile. Mais après, une fois qu'ils sont connus par la toile, il faut qu'ils puissent voyager et circuler. Et là, eux ont encore plus difficile, puisqu'ils viennent de nulle part et ils n'ont aucun moyen. Et pour se faire reconnaître ici, il faut d'abord qu'ils puissent voyager et qu'ils trouvent de l'argent pour développer leur art. Et ça, c'est un autre des dangers de la difficulté de mobilité, en tout cas dans les arts, peut-être moins en musique, mais en cinéma, etc. C'est effectivement un énorme problème.
Issaka, tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, moi, j'aimerais dire que, pour dire que empêcher les artistes africains à voyager, à aller en Europe, ne va pas arrêter la créativité des Africains. Jamais. Je peux vous donner l'exemple du Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, qui est un centre culturel que nous, au niveau du Burkina Faso, nous avons initié. C'est un centre qui est, au départ, est parti des artistes, un petit groupe d'artistes burkinabés qui se sont dit, bon, écoutez, on crée des spectacles, la musique et tout ça, pour attendre que des grands festivals nous invitent, alors que nous aimerions vivre de notre art. On aimerait vivre de tout ce qu'on fait. Où est le problème? Nous nous sommes posés toutes ces questions. Et on s'est rendu compte que le problème, c'est que il n'y a pas le public. Eh bien, s'il n'y a pas le public qui achète nous, notre travail, ben, il faut aller chercher ce public-là. Il faut former ce public-là. Alors, on a fait simplement un calcul. Quand on prend un film qui arrive des États-Unis, Rambo, on remplit toutes les salles. Vous le faites même à l'espace libre, les gens viendront payer pour regarder. Je dis, ben, voilà, ça veut dire, ça y est, dans leurs habitudes, le cinéma. Et le théâtre, la danse et tout ce qu'il y a, ça n'y est pas dans leurs habitudes. Alors, il faut mettre une politique culturelle, une politique en place. Et nous-mêmes, les acteurs, nous allons aller vers notre public, leur proposer gentiment, les amener à venir régulièrement au théâtre, puis petit à petit, c'est eux-mêmes qui vont réclamer notre travail et ils payeront. Alors, voilà comment est né le Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, qui aujourd'hui est l'un des théâtres professionnels, je dirais, de la sous-région ouest africaine qui fonctionne 365 jours sur 365 jours. Que nous ayons des financements extérieurs ou pas, en tout cas, nous, les comédiens, les membres de ce Carrefour-là, continuent la création parce que la demande au niveau des établissements scolaires, on est débordé, on ne peut pas. La demande au niveau des quartiers, on ne peut pas. Mais on ne peut pas satisfaire à cette demande. Donc déjà, pour moi, je me dis, mais c'est possible. L'artiste africain n'a pas besoin de l'Europe pour développer son art. Mais quand on pense autrement que il y a la communication entre les humains, c'est ça qui enrichit le plus. Ben, en ce moment, l'artiste africain a besoin de sortir pour aller montrer ce qu'il sait faire à d'autres artistes et qui vont s'inspirer de ce qu'il a fait et qui vont aussi faire des choses pour eux, ainsi de suite. Donc c'est un mouvement qu'on ne peut pas arrêter. Et moi, je ne suis pas convaincu, René, qu'un problème de visa... Les administrateurs politiques ou autres n'ont qu'à bien resserrer la ceinture. Les artistes vont toujours continuer à bouger. On verra des conteneurs qui vont arriver de l'Afrique avec des artistes à l'intérieur. Ils vont bouger. Et des conteneurs aussi viendront de l'Europe en Afrique. Hein. Ça, je vous assure, ça vient. Hein. Ça vient. Et les artistes, on ne pourra jamais les arrêter. Parce que la créativité, on ne peut pas emprisonner la créativité. Chez nous, je termine pour dire qu'il y a un proverbe qui dit qu'on peut obliger une personne à se coucher, mais on ne pourra jamais l'obliger à dormir.
En plus, il y a du monde. Ben, on a le plaisir d'accueillir ici au festival. Il nous fait une visite un peu éclair comme ça. Dread Maxime, qui est quand même la voix du reggae au Sénégal. Ouais, on peut l'applaudir hein, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et qui a donné des concerts là au Théâtre de Poche à Bruxelles, organisé par Olivier Bonny, qui dirige le bar des clandestins. Alors,
Merci d'abord de venir à ce débat et c'est toujours d'actualité le petit set acoustique, Olivier, à la fin. On l'espère. Voilà.
Malheureusement, moi, je voulais juste m'excuser en fait d'être en retard. Je me suis pas réveillé. Voilà, j'étais complètement naze. Voilà, donc à 2h de l'après-midi, ils sont venus sonner chez moi. Donc je suis vraiment désolé. J'ai rien pu faire. Voilà.
Je l'ai réveillé ce matin. Merci
beaucoup de nous accueillir parce que ça fait des semaines qu'on essaie de préparer ça en se disant, justement, Dred de Maxime qui arrive du Sénégal de Dakar et de passage en Belgique. Il vient effectivement de faire des concerts au bar des clandestins à Bruxelles. Et puis on espère qu'effectivement il y aura la place pour un petit set.
Sympathique de bienvenue. Voilà. Bonne arrivée. Comme
on va vous faire danser
en Afrique de l'Ouest, à Ouagadougou. Alors, c'est l'interprète de la Jola Reggae, ce fameux morceau qui a fait le tour du Sénégal, notamment suite à cette tragédie, ce bateau qui a coulé et qui a fait plus de pratiquement 2000 morts. On va le laisser tomber, ça. C'est plus que le Titanic. Qui a beaucoup secoué le Sénégal. Je sais, j'y étais à cette époque et j'ai vu le nombre de familles qui étaient touchées par ça. Et toi, tu as décidé d'écrire une chanson qui a conscientisé les gens et puis maintenant une carrière qui a commencé depuis un certain temps. Alors, tu as eu des difficultés pour arriver jusqu'ici, Dred. Toi, Dred, qui remplis des grandes salles au Sénégal.
Oui, pourquoi pas. J'ai eu chaque fois c'est les difficultés pour pouvoir bouger. D'abord, je commencerai par vous dire merci aussi. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là aussi en ce moment, participer à ce débat aussi. Je pense que ça nous concerne et ça concerne aussi les artistes et ça concerne le public aussi. Je pense que aujourd'hui, ce devrait être un problème assez dépassé, mais on trouve toujours des problèmes pour voyager, pour bouger. Et des années avant, j'en ai trouvé des problèmes en ce qui concerne les visas. On demande beaucoup de raisons, beaucoup de choses à justifier, beaucoup de justifications pour voyager, pour aller donner quelque chose. Et je pense que c'est un combat et j'ai beaucoup d'espoir par rapport à la suite de ce combat parce que je pense que nous sommes dans un monde où on a besoin de l'art, les gens ont besoin de l'art. Ici, les gens travaillent beaucoup et le travail fait partie de la vie aussi, mais je pense qu'à un certain moment, les gens ont besoin de s'évader, de se laisser. C'est donc une nécessité, un besoin. Et donc, nous, en tant qu'artistes, nous voyageons, nous avons quelque chose à donner. Nous avons envie de participer à quelque chose, à l'édification d'un monde meilleur. Et donc, pour nous, c'est important. On ne peut pas seulement rester dans nos pays et chanter pour eux. Je pense que le monde entier, l'univers, a besoin de vibrations, je pense. De bonnes vibrations, des vibrations positives. Et donc, je pense qu'on va, comme il a dit, on va voyager, on va continuer à voyager, on ne va pas laisser tomber. C'est beaucoup de protocoles, c'est beaucoup de choses, mais il y a toujours quelque chose en nous qui fait qu'on arrive à surmonter toujours ces problèmes. On a la passion pour ce qu'on fait, qu'on essaie de gérer avec la raison, mais quand même, ça va. Je pense que c'est un combat pour nous artistes, mais je pense que c'est beaucoup plus aussi pour les mélomanes, ceux qui reçoivent les vibrations, ceux qui aiment l'art en général. Et donc c'est un combat pour tout le monde parce que c'est un rendez-vous, moi je le considère comme le rendez-vous du donner et du recevoir. Nous on a quelque chose à donner, mais quand on est en train de donner, il y a toujours quelque chose qu'on reçoit de ce qu'on donne, une énergie qui nous permet de donner encore plus et participer au combat, aidez-nous à c'est notre combat à nous. C'est donc c'est pas nous aider, c'est nous aider nous-mêmes à surmonter cet obstacle, à voter pour la libre circulation des artistes et de l'ouverture des frontières, se battre pour l'ouverture en général des frontières dans le monde entier pour que ce monde soit bon, ce village dont on rêve tant quoi. Et merci beaucoup à vous. Yes, merci.
Michel, tu veux rajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit? Est-ce que tu as Est-ce que tu participes, tu as l'impression de participer à travers cette volonté de diffuser des Africains, des artistes africains, à rendre, on va dire, un autre monde musical possible? Est-ce que c'est la clé de on va dire, de ton combat, ça?
Oui, bien sûr, c'est, je crois que c'est très important. Tout ce que tu as dit est une évidence. D'autant plus que aujourd'hui, je crois qu'une grande partie des gens dans le monde ont besoin, ont soif de ça, ont envie de connaître ça. Donc pour nous, c'est important de faire connaître à travers le monde les artistes de ce continent. C'est ce qui m'a touché il y a quelques années et que j'ai essayé de faire depuis lors. Et je voudrais ajouter à ce que j'ai dit là tantôt, c'est qu'effectivement, si j'ai eu envie de travailler principalement avec des artistes basés en Afrique, c'est qu'il est très important que la création qui se fait au jour là-bas, parce que je ne voudrais quand même pas non plus qu'on se mésentende sur ce que j'ai dit là tantôt, c'est une évidence que la création musicale africaine ou artistique ne va pas s'arrêter à cause des problèmes des visas. J'ai parlé, c'était plutôt par rapport si quelqu'un a un cas de conscience, si jamais il veut arrêter ou quoi, son alternative est à ce moment-là, mais c'est certain que sur place, il y a toujours plein de créations dans plein de domaines, il y a des choses qui se font, même sans subvention européenne. Hein, je pense au Bénin, à des gens qui travaillent la danse avec les enfants à travers tout le pays, je pense à ces gens. Donc effectivement, moi j'ai vraiment envie de continuer à montrer dans le plus de pays possible les créations venant d'Afrique.
Oui, voilà, c'est ça, pour appuyer justement ça, et pour donner encore un autre exemple, nous avons par exemple le Burkina Faso, nous avons plus de, je ne sais plus combien de troupes, de groupes de artistiques qui sont là, qui sillonnent tout le pays, chaque année, à tout moment, avec ce que nous appelons le théâtre d'intervention sociale. Et le théâtre d'intervention sociale, vous le savez bien, a été inspiré de la méthode d'Augusto Ball, c'est-à-dire le théâtre de l'opprimé. Voilà. Nous, les artistes, on est des opprimés et ce n'est pas un problème d'être opprimé, mais on a la joie. En tout cas, vous arrivez au Burkina, que ce soit le Burkina, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Bénin, le Togo, toute l'Afrique de l'Ouest, il y a une mouvance générale qui est en train de se mettre en place comme ça, des structures qui sortent comme ça, des grands festivals qui est le festival du désert. Au Mali, vous avez entendu parler de ça, il y a le festival Essaouira, il y a partout, l'Afrique est en train de se réorganiser. Et je pense que c'est dommage qu'au niveau politique, ça ne change pas. C'est dommage. Voilà.
Oui, vas-y, Alfred.
Voilà, donc j'allais rajouter qu'effectivement, au niveau politique, c'est là que ça ne bouge pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures qui font quelque chose pour que le message passe. Et c'est bien qu'il y ait vraiment, que ce combat puisse continuer. Je vais prendre l'exemple de la relation entre le FESDIG et Esperanza, qui a fait en sorte que des artistes qui ont joué ici l'année passée puissent venir jouer chez nous au Burkina Faso. Je crois que une action pareille peut permettre un échange, peut installer un échange entre artistes, entre festivals, entre pas mal de structures qui peuvent favoriser vraiment la mobilité des artistes, parce que seul on ne peut pas. Hein, donc c'est très bien vraiment qu'il y ait vraiment des actions collectives quoi, pour pouvoir affronter le problème politique.
Une question pour toi, est-ce que le fait d'avoir un partenariat avec le Festival Esperanza depuis 2 ans, est-ce que ça a changé des choses dans ton festival? Est-ce que tu as vu une amélioration? Est-ce que ça t'a permis d'avoir plus de facilité avec le politique, avec le local? Est-ce que ça a changé un peu?
Oui, j'allais dire que ça a beaucoup changé, même parce que bon, ça fait 3 ans que je viens ici. Quand j'arrive à Esperanza, je regarde un peu comment ça s'organise, comment je rencontre les gens, je discute. Bon, on apprend toujours. Il y a des trucs ici qu'on voit et on se dit « Ah, ça, on peut aussi adapter selon notre milieu et donner une autre présentation ». Et au niveau politique aussi, ça change. quand par exemple nos autorités voient que nous nous battons, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous avons commencé vraiment par notre propre volonté. Hein, ça, voilà, donc, mais qu'il y a quand même des relations venant d'ailleurs, qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi, et que les gens d'Esperanza ont aussi fait le déplacement jusqu'au FESDIC. Ce sont des échanges comme ça qui, voilà, ça valorise aussi ce que nous faisons, parce que ça veut dire que ça intéresse des gens. Il y a des gens qui ont vu et qui ont dit, ah, ça, c'est intéressant. C'est qu'il y a aussi qui a beaucoup valorisé notre festival, c'est dans la qualité même des prestations des artistes. Parce qu'un festival comme le nôtre qui se passe dans un village où il n'y a pas d'électricité, je reviendrai en 19h, nous avons un débat, bon, nous allons présenter le festival. Dans un village où il n'y a pas d'électricité, il y a difficilement de l'eau et tout ça, c'est très difficile. Et donc les instruments avec lesquels nos artistes jouent, comme la plupart sont des instruments traditionnels, il n'y a aucun problème. Mais quand on regroupe un certain nombre de personnes, des milliers de personnes autour d'une activité, avec des micros qui ne fonctionnent pas, avec des trucs qui se bricolent, ça ne va pas. Et donc la relation a aussi permis, par exemple, d'acquérir depuis 2-3 ans une bonne qualité de sonorisation, ce qui valorise vraiment le travail des artistes, qui valorise vraiment, qui développe leur travail, parce que ça, quand on vient suivre avec ces instruments-là, on sent vraiment quelque chose de bien.
Grâce notamment, je donnerai la parole à Olivier tout de suite, oui. Grâce notamment à Africalia qui a cette plateforme sonore et qui a permis justement à ton festival d'être équipé d'une manière professionnelle pour pouvoir entendre tous ces instruments en voie de disparition aussi. On aimerait d'ailleurs recevoir beaucoup de ces groupes avec des instruments incroyables. Je crois que la majorité des gens qui sont ici ne connaissent pas ces instruments. Là aussi, ça fait circuler la musique d'une manière tout à fait extraordinaire. Olivier, voilà. tu voulais ajouter quelque chose ou tu voulais dire quelque chose?
Oui, moi je voudrais dire en fait que ce que je comprends jamais, c'est les efforts répétés de structures, que ce soit Esperanza ou d'autres, qui au bout de 5 ans ou 10 ans ont fait preuve d'un travail magnifique, collectif, avec toujours une partie du travail bénévole, avec des gens qui viennent aider, avec des parents, des cousins, des gens qui viennent vraiment supporter un projet en disant c'est pas mon projet, mais voilà, je vais faire la cuisine pour toi pendant, comme on fait pour nous au bar des clandestins dans une très petite structure, et que ces efforts ne sont jamais finalement pris en considération. Ces efforts ne font jamais fructifier l'argent. Ces efforts ne créent jamais de fondation. Et moi, il me semble de plus en plus, et je parle de manière un petit peu générale, puisque c'est un débat sur la libre circulation des artistes africains, et que moi, personnellement, je ne suis pas africain et je ne connais pas le problème, mais ce qui me semble, c'est que les artistes nourrissent le système et que le système ne nourrit jamais les artistes en contrepartie, à part de manière très ponctuelle en disant, voilà, j'ai un contrat avec Dredd, j'ai un contrat avec toi, je te paye une telle somme pour venir faire un travail, pour venir faire ton travail d'artiste, mais qu'il n'y a finalement jamais de fonds, comme un fonds de crise, comme un fonds européen en K2, comme pour la musique, pour le théâtre, pour l'art. Et que ce fonds pourrait être créé et devrait être créé sur une partie des fonds générés par l'art lui-même, puisque chaque artiste qui dit, voilà, Dredd Maxime fait un concert, il y a des gens qui vont aller le voir, qui vont se déplacer, qui vont consommer des trams, consommer des GSM, consommer des restaurants, consommer des boissons. Et donc l'artiste génère le mouvement de l'individu qui de chez lui part au concert, part au théâtre pour aller acheter finalement. Et la valeur commerciale de ça ne revient jamais à l'artiste. Alors je me dis, comment est-ce qu'on pourrait envisager de créer au niveau européen un fonds de soutien qui permet juste d'aider les structures, comme quand par exemple cette année on vous dit, il n'y a plus d'argent pour Esperanza, débrouillez-vous. Mais nous, ça fait 10 ans qu'on travaille à Esperanza ou ailleurs, sans fonds déjà, avec beaucoup de difficultés, et puis tout d'un coup, les subsides sont coupés. Donc comment est-ce qu'on pourrait envisager de créer quelque chose qui se pérennise, en fait?
Bon, ben, il faut savoir qu'ici, les subsides sont infimes, puisque c'est pratiquement 80% de fonds propres, c'est-à-dire c'est le festival des gens, c'est les gens qui font que le festival existe. Voilà une des solutions, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur un fragile équilibre chaque année, s'il y a moins de monde, si c'est d'ailleurs, on espère que cette année ça ira, mais c'est un fragile équilibre, donc ça a des répercussions évidemment sur la diffusion des artistes aussi, quand l'aspect financier est en danger. Moi je propose peut-être, sauf si Dredd, tu as quelque chose d'autre à ajouter, une envie de dire quelque chose sur ce qu'on vient de dire là, en plus? Je vois que les amis africains nous rejoignent, ils reconnaissent Dread.
Yes, oui, je pense que le côté économique est très important dans ça. Et je pense que ce serait pas une idée pas mal, et donc ce serait une volonté politique de la part de ceux qui gèrent. Mais moi je pense que ce serait peut-être une question que je pose si ce serait pas l'instauration d'une carte par exemple pour les artistes, je sais pas, une carte artistique internationale ou bien une carte artistique nationale au niveau des artistes africains. Et donc pour ça il faut encore mieux structurer aussi la musique, parce que je pense que les bureaux de droits d'auteur n'existent pas partout encore dans tous les pays africains. Donc en attendant, il faut déjà se mettre dans ça pour faire en sorte que dans tous les pays existe un bureau des droits d'auteur où les artistes peuvent être représentés et défendre les droits de leurs œuvres. Et donc à partir de là, je pense que c'est possible d'instaurer une carte africaine, une carte par rapport à ceux qui se déclarent au bureau des droits d'auteur. On peut, par rapport à ces gens, si un artiste se déclare comme artiste et qu'on voit qu'il, par rapport à son œuvre, qu'il est artiste et qu'il déclare son œuvre une œuvre à protéger, il peut recevoir une carte. Chez nous, on a une carte, mais cette carte n'est pas valable. C'est écrit pas professionnel, c'est pas quelque chose de professionnel, mais c'est une carte qui déclare que vous êtes dans la société du droit d'auteur. Mais je pense que peut-être l'instauration de cette carte pourrait faire en telle sorte que, et puis comme puisque tout marche sur des lois, donc on mettra des lois et que les artistes pourront vraiment pouvoir bouger quoi.
Michel, qu'est-ce que tu penses de cette idée de carte?
Au niveau européen, cette carte, on en parle depuis très longtemps. Il y a une organisation française qui s'appelle Zone Franche, qui regroupe beaucoup d'acteurs culturels. J'ai eu l'année passée l'occasion de participer à une réunion avec Zone Franche et d'autres opérateurs français, avec des représentants du ministre Jouandet et du ministre Besson. Et effectivement, en réunion, ils acceptent l'idée d'une carte artistique, mais par après, on entend que jamais ils ne la donneront. Jamais ils vont faire ça, parce qu'effectivement, ça rentre dans la problématique Schengen, et jamais ils le feront. En réunion, ils nous apaisent en disant oui, bien sûr, ce serait une très bonne idée qu'il y ait une carte artistique qui existe. Hein, ils discutent de ça avec vous, mais en réalité, on sait très bien qu'ils ne le feront jamais.
Et pourtant, comment dire, quand on entend la politique de Sarkozy qui est plutôt attirée par une élite, je dirais une élite que ce soit... qui est attiré par une élite africaine plutôt que je dirais la notion de main d'œuvre, etc. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas l'artiste faisant partie d'une certaine élite.
Non, moi j'ai pas l'impression du tout.
Moi j'apporte une toute petite perle qui vient de s'ajouter au Burkina Faso. À la richesse des artistes du théâtre, c'est que nous venons maintenant d'avoir un statut. L'artiste burkinabé a un statut, et un statut d'artiste, ce qui lui permet d'avoir sur sa carte d'identité profession artiste et d'avoir sur son passeport profession artiste. Et j'espère que ça, déjà, c'est un pas de gagner.
Et alors, moi, je voulais dire deux choses. Il y a
pour conclure.
Pour
conclure, parce que je vais donner la parole au public.
Pour conclure, il y a un proverbe en Afrique qui dit, ça s'appelle, Dredd le dira mieux que moi, c'est « Matmaknabai Chimrao ». Ça veut dire, c'est pas traduit comme ça, mais chez nous, on traduit ça par « un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Tout ce qui se trouve en Afrique, sur le continent africain, ça existe là, maintenant. C'est-à-dire, s'il n'y en a pas une trace, après, c'est parti. Parce que quand ils font des concerts chez eux, Dredd a chanté souvent en playback. Parce qu'il était obligé de mettre la musique et juste de chanter. Il y avait juste sa voix parce qu'il y avait un micro. Donc ce qu'il faut, c'est conserver ce patrimoine-là. Lui conserver son caractère aussi de fête. Parce qu'en fait, on est venu jouer. Et en fait, on est venu vous faire danser. Et je crois que ça va être le but de ça aussi. Et puis je dirais que le but pour moi, complètement avoué de venir ici, c'était de présenter Dredd Maxime en espérant qu'il viendrait l'année prochaine. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est un très grand artiste. Et puis en plus parce que c'est une personne qui... quand il est là, les choses changent autour de lui. Alors merci d'être là. Moi, j'ai mis 3 ans pour te faire venir en parlant de la libre circulation des artistes africains. Donc, Dja Diofaté.
Voilà. Et pour bravo, merci pour cette belle conclusion. Mais j'ai envie de retourner ça avant de parler avec le public, que les gens puissent poser des questions à tous les intervenants.
Ici, une demoiselle.
Bonjour, je vais me lancer. Je me demande, au niveau européen, est-il possible de faire en sorte que justement l'artiste soit considéré comme une personne à haute valeur ajoutée, l'artiste africain soit considéré comme une personne à haute valeur ajoutée pour venir et venir se produire ici en Europe, là où il y a un public qui paye plus facilement parce qu'il a les moyens. Y a-t-il des choses à faire Y a-t-il quelque chose à faire pour permettre ça, en fait, pour pousser ça? Parce qu'on parle de Sarkozy et de Luc Besson. C'est plus le même, mais... Oui, mais...
Je pense que c'était l'objet du débat. C'est, pour le moment, c'est vraiment l'inverse. L'année dernière, Louis Michel, qui était encore commissaire européen, a mis sur pied tout un grand pow-wow où ils ont invité des artistes, à peu près 2000 artistes venus de tous les pays, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Il y a eu, pendant une semaine, des débats dans tous les domaines, cinéma, télévision, musique, etc. Il y a eu une déclaration de Bruxelles avec tous les artistes qui l'ont signée. C'était une des premières demandes des artistes et aussi cette fameuse carte qui permet de voyager. Ça n'est nulle part. C'est-à-dire qu'il y a eu cette déclaration de Bruxelles, tous les ministres de la culture européens étaient là, des ministres africains étaient là, tout le grand staff européen était là. Cette déclaration a été signée par tous les artistes présents à Bruxelles.
Oui, les artistes
les artistes africains, des artistes qui venaient des pays ACP. Il y a eu des réunions qui ont été faites pour un peu discuter de comment justement beaucoup mieux travailler ensemble, artistes européens, artistes africains, politiques et artistes. Et rien n'avance. Les choses ont été dites, les choses ont été demandées, comme on le disait avec cette fameuse carte tout à l'heure, mais rien ne bouge politiquement.
Et au niveau individuel, pour des artistes nettement plus connus comme Papa Wemba, Tiken Jah Fakoly, etc., est-ce qu'ils sont considérés, est-ce que c'est plus facile pour eux que pour des personnes connues plus, ben, plus
Papa Wemba, ça a été oui, mais ça a été compliqué. Souvenez-vous, il y a quelque temps, il s'est fait enfermer dans une prison française parce qu'il avait fait voyager une trentaine de techniciens qui n'étaient pas techniciens. Et aurait-il vendu ou pas des visages, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour les artistes connus, c'est parfois plus facile, mais pas toujours. Mais je vais rendre le micro. Quand je l'ai, je le garde.
Michel, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, je veux simplement rajouter que... Effectivement, j'ai aussi participé à cette réunion à Bruxelles. Ce sont les ministres de la culture qui se sont engagés à faire ça. Mais il faut bien savoir, bien comprendre que les visas, ce sont à chaque fois des priorités, des prérogatives, pardon, de chaque État. Donc l'Europe ne parvient pas à mettre un consensus européen, puisque chaque pays veut garder ça vraiment, c'est sa politique individuelle. Donc effectivement...
Je répète parce que c'est important, les lobbies artistiques ne sont pas assez puissants et donc ça n'intéresse pas les politiques pour les 100, 200, 500 000 artistes ou personnes intéressées que ça intéresse. C'est un des gros problèmes.
Pour valoriser l'Afrique, la musique, le théâtre qui fait partie de la culture des griots, tout ça c'est merveilleux quoi, parce qu'on a tendance à toujours voir
bien
l'Afrique
sûr,
de la mauvaise...
Bien sûr, mais que cherche le politique, c'est d'être réélu oui. Et... Au niveau artistique, que ce soit les Occidentaux ou les artistes qui viennent d'ailleurs, on n'est pas suffisamment nombreux que pour avoir une force importante au niveau électoral.
Moi, j'ai envie de donner la parole à Issacar pour conclure ce débat, puisque je vois que tu réagis souvent d'une manière très, très énergique et très, très sage aussi, mais énergique, c'est-à-dire émotionnel, puisque tu es l'acteur, hein, tu es l'acteur, tu es en tournage d'ailleurs pour le moment, hein, pour un prochain film, pas de Marion, mais...
Cat Bells, c'est une bruxelloise, une belge qui fait son premier long métrage. Ouais, puis Nicolas Provost aussi qui fait son premier long métrage et je reviens, je finis ce tournage, je reviens, je fais l'autre. Et là, je vais porter tout le film.
D'accord.
Oui.
Dredd, que prépares-tu pour le moment?
Je pense que c'était mon dernier voyage, c'est mon dernier show, je pense. pour mon voyage, eh bien, on va faire une session acoustique. J'ai ma guitare avec mes gens, mes gars sont là. On va essayer de présenter quelque chose pour le bonheur du public qui est là. Et puis, merci aussi vraiment encore une fois. Yeah.
Bon, on va conclure alors ce débat. Je vous remercie d'être venu. D'ici un petit quart d'heure, Dredd va nous faire un cadeau. Un cadeau off, mais un cadeau in dans le cœur. Voilà, avec les moyens du bord. Hein. Mais on va se la faire comme dans une cour en Afrique. Hein. Ça va ? Comme à la maison. Voilà, merci à vous.